RFI 6h30 à Paris et Niamey 7h30 à Gomain. Et tout de suite le journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, les dernières évolutions de la situation à Goma dans l'est de la RDC.
Calme passager hier après-midi dans la capitale provinciale du Nord Kivu après des combats dans la matinée entre groupes armés du M23 soutenus par le Rwanda et armée congolaise appuyée par ses alliés. Une situation qui crispe de nombreux manifestants dans le pays. Plusieurs ambassades ont été attaquées à Kinshasa hier. Celle du Kenya, de l'Ouganda, des États-Unis, de la Belgique ou encore de la France. Vous entendrez la réaction de Paris dans un instant. On se plonge ensuite dans le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun. Il a été remis hier à Paul Biya. Compte rendu également de l'audience de ce mardi dans le procès d'Olivier Boko au Bénin. Et puis, saisissons les mains tendues et tendons-nous les mains, les mots de Succès Masra au Tchad. L'opposant répond à l'appel de Mahamat Idriss Déby. Vous l'entendrez en fin de journal. Après une matinée d'hier agitée par notamment des échanges de tirs entre combattants du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et armée congolaise appuyée par ses alliés dans plusieurs quartiers de Goma, c'était le cas autour de l'aéroport, un calme précaire était revenu dans l'après-midi. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Cette nuit a également été calme dans la capitale du Nord Kivu.
Oui, les tirs se sont peu à peu estompés hier dans l'après-midi et la nuit qui vient de s'écouler a été plutôt calme après d'intenses combats ces derniers jours qui ont permis au M23 de consolider ses positions à Goma. Le bilan humain qui commence à peine à se dessiner pourrait être lourd. Plus de 100 morts et un millier de blessés ont été conduits dans les hôpitaux de la ville selon un décompte établi par l'agence France Presse. Hier, certains habitants ont osé ressortir dans les rues de Goma pour tenter de trouver des provisions, alors que dans la matinée, des hangars contenant de l'aide humanitaire d'urgence ont été la cible de pillages, selon l'ONU. Le calme règne aussi ce matin, côté rwandais, à Gisenyi, ville jumelle de Goma, où la frontière n'a pas encore ouvert. Cette nuit, Kinshasa a aussi annoncé la nomination d'un nouveau gouverneur militaire dans le Nord Kivu. Il s'agit du général de brigade Somo Kakule Evariste. Il remplace le général-major Peter Chirimwami, qui a perdu la vie après avoir été blessé sur la ligne de front il y a quelques jours. On attend toujours une prise de parole du président congolais Félix Tshisekedi, qui ne s'est pas exprimé jusqu'à présent. Une communication prévue hier a finalement été repoussée à aujourd'hui par ses services.
Merci Lisa Fabian pour ces derniers développements autour de la situation à Goma. Félix Tshisekedi, vous en parliez, qui prendra peut-être part à un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est ce mercredi. À l'initiative du président kényan William Ruto, lui qui assurait dimanche que ses homologues congolais Félix Tshisekedi donc et rwandais Paul Kagame participeraient à cette réunion. Participation pour l'heure non confirmée ni par Kinshasa ni par Kigali. Hier également s'est tenue une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. La chef de la diplomatie congolaise Thérèse Wagner y a actualisé le bilan des réfugiés dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Pas moins de 500 000 depuis le 1er janvier de cette année. La journée d'hier également marquée par de nouvelles manifestations un peu partout dans le pays, dans la capitale notamment. Plusieurs ambassades ont été attaqués à Kinshasa. Conséquence, les rassemblements en soutien à l'est du pays prévus ce jour sont reportés. Une décision annoncée hier soir par Daniel Bumba, gouverneur de la province. RFI Kinshasa, Pauline Azidi.
Daniel Bumba ne parle pas d'annulation. Le gouverneur évoque un report, démarche annoncée pour ce mercredi, à une date ultérieure qui n'est pas encore fixée. Une décision qui fait donc suite aux violences qui ont touché la ville ce mardi, et plus particulièrement son centre administratif, la commune de la Gombe. Plusieurs ambassades ont été la cible des manifestants, notamment celles de la Belgique, de la France, des États-Unis, de l'Ouganda et du Kenya. La tension a été forte une grande partie de la matinée. Des pillages et des dégradations ont été signalés dans plusieurs d'entre elle. Un incendie a même touché l'immeuble qui abrite les anciens bureaux de l'ambassade du Rwanda, actuellement fermé. Dans la ville, des magasins, des restaurants ainsi que des habitations ont aussi été pris pour cible par les manifestants qui dénoncent l'inaction, la complicité de la communauté internationale après les derniers événements dans l'Est. Les différents pays concernés ont condamné ces violences. Le gouvernement congolais, lui, a exprimé ses regrets aux missions diplomatiques touchées et a assuré avoir pris des mesures pour garantir leur protection. Pauline Azidi, Kinshasa. RFI.
Et sur ces attaques d'ambassade hier à Kinshasa, je vous propose d'écouter ce matin la réaction de Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
La première des réactions, ça a été d'abord l'émotion en fait de voir l'ambassade de France à Kinshasa attaquée et d'autres ambassades aussi attaquées. La première réflexe que nous avons eue, c'est de s'assurer que les personnels étaient sains et saufs. Et ils l'ont été, effectivement, et notamment, et vraiment, on souhaite remercier de manière appuyée l'intervention des forces congolaises qui ont permis, en fait, de stopper les assaillants et de faire en sorte que les dégâts ne soient pas plus graves que ce qu'ils ne sont ce soir. Mais bon, il n'en reste pas moins que nous condamnons quand même très fortement cette attaque contre l'emprise diplomatique française ainsi que contre les emprises diplomatiques d'autres pays sur place, je pense notamment aux États-Unis ou à la Belgique.
Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay, il était joint par Pierre Firsion. L'Union européenne a de son côté jugé inacceptable ces attaques quand les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays en raison, disent les Américains, d'une augmentation de la violence. Je précise que le gouvernement congolais a présenté ses regrets suite aux actes de vandalisme commis par les manifestants. Fin de citation. Côté diplomatique encore, Marco Rubio, lui, s'est entretenu par téléphone avec le chef de l'État rwandais. Le nouveau secrétaire d'État américain a réitéré son appel au cessez-le-feu immédiat. Il a demandé de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. Paul Kagame a de son côté salué une conversation productive avec son interlocuteur. On continue de parler de cette situation à Goma ce matin avec nos invités. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC avec Guillaume Thibault, juste après ce journal. Et aux alentours de 6h20, temps universel, François Morellon, chef de délégation du CICR en RDC. Il sera avec Arnaud Pontus.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
6h37 à Yaoundé. C'est un rapport qui pointe du doigt le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Plus de 1000 pages, fruit d'un travail mené depuis près de 2 ans par 14 chercheurs, autant de Camerounais que de Français, sous la direction de l'historienne Karine Ramondi. Et ces auteurs y confirment que la France a bel et bien mené une guerre de décolonisation. Ce rapport a été remis hier au chef de l'État camerounais Paul Biya, la semaine dernière à son homologue Emmanuel Macron, à qui les auteurs recommandent de prononcer un discours pour reconnaître officiellement le rôle et la responsabilité de son pays dans cette guerre, ainsi que, je cite, « les violences multiples exercées ». Florence Maurice.
2300 documents déclassifiés par la France, issus des archives de la Sûreté coloniale et du SDEC, les services de renseignement. Des facsimilés de ces documents devraient être disponibles à l'avenir dans un centre d'archives à Paris, indique le rapport, dans un lieu qui reste à déterminer. Un bémol côté Cameroun, les chercheurs n'ont pas pu accéder aux archives nationales pour la période après 1964 donc. Ils ont en revanche bénéficié d'une dizaine de dons d'archives privées, comme celle du général Briand, commandant de l'armée française en 1960, ou de l'homme politique camerounais Moïse Satouglé, un transfuge du parti indépendantiste et fondateur d'un parti dit de collaboration. Pour le reste, la commission s'est largement appuyée sur des sources déjà communicables et en partie exploitées par le passé. Si les grandes lignes de cette guerre de décolonisation avaient déjà été établies par des historiens, les auteurs de ce rapport se sont attachés à combler certaines lacunes et espèrent surtout atténuer un vide mémoriel. Car malgré l'existence de plusieurs ouvrages reconnus sur cette guerre, côté français, constatent les auteurs du rapport, la guerre du Cameroun est une terra incognita des mémoires sur le passé colonial.
Les détails de Florence Maurice, et vous retrouvez encore plus d'éléments sur ce rapport en ligne sur RFI.fr. Un épisode supplémentaire dans le procès d'Olivier Bocco, d'Osvaldo Mecchi et de 4 autres personnes poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État au Bénin. Hier, l'audience s'est tenue sans avocat de la défense, un choix de la part des prévenus qui n'ont pas recruté d'autres conseils après la démission collective de leurs avocats, rejetant la faute sur l'administration pénitentiaire. Deux moments forts à souligner ce mardi, d'abord le silence des deux principaux accusés, puis la déposition du commandant de la garde républicaine approché, selon la justice, pour mettre en place le projet de renversement du président Patrice Talon. Compte rendu d'audience signé Jean-Luc Aplogan depuis Libreville. Ville.
Selon l'officier, c'est le 30 juillet 2024 que le ministre lui a parlé du projet pour la première fois. Pour obtenir son adhésion, Oswald Roumeki aurait d'abord dénigré Patrice Talon, affirmé qu'il va s'accrocher avec un troisième mandat. Il confirme l'ouverture d'un contrat d'assurance prestige ouvert en son nom en Côte d'Ivoire. Toujours selon lui, le budget de l'opération a été évalué à 1,5 milliard de francs CFA. C'est au moment où le ministre devait lui remettre l'argent qu'ils ont été arrêtés. Pourquoi ne la n'avoir pas dissuadé d'entrer, interroge le ministère public. J'ai pris le risque de gérer et d'informer l'autorité au bon moment. À propos d'Olivier Bocor, l'officier déclare n'avoir jamais parlé du projet avec lui. L'intéressé s'étonne d'ailleurs dans un PV d'audition lu à l'audience. Je m'interroge sur ce que je fais ici. Sur l'origine des fonds saisis pour la justice, une bonne partie viendrait de Roch Nyeri, beau-frère de Olivier Bocor. Il n'y avait pas d'avocat pour apporter la contradiction. En leur absence, Olivier Bocor et Oswald Roumeki ont décidé d'observer le silence. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Jean-Luc Aplogan, bien en ligne depuis Cotonou. Et l'audience doit se poursuivre ce mercredi. C'est officiel, en ce mercredi 29 janvier 2025. Les trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel quittent pour de bon la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Burkina Faso, Mali et Niger avaient annoncé leur départ il y a un an déjà. Mais les statuts de l'organisation sous-régionale prévoyaient un an de délai. La CDAO qui laisse par ailleurs à partir de ce jour encore 6 mois à l'AES pour changer d'avis. Les deux parties doivent désormais initier et négocier les formalités de ce retrait. Hier, des rassemblements ont eu lieu dans les trois pays pour soutenir cette alliance des États du Sahel. Vous en lisez également un peu plus sur le sujet sur RFI. Et puis la fin de cette édition au Tchad, avec cette prise de parole remarquée, celle de l'opposant Succès Masra, son parti, les Transformateurs, qui avait pourtant boycotté les législatives en fin décembre dernier, reconnaît les résultats du scrutin et répond à l'appel de Mahamat Idriss Déby, qui s'était dit prêt la semaine dernière à tendre une main fraternelle à toutes les forces politiques du pays. Succès Masra qui, dans cette déclaration publiée sur Facebook, assure avoir confiance et dans les institutions républicaines et au président. Je vous propose de l'écouter.
J'exprime et je réitère notre disponibilité à donner une nouvelle chance à l'avenir de notre pays en acceptant de travailler avec le président de la République pour la stabilité et le développement de notre pays. Hier, comme aujourd'hui, nous sommes disponibles au dialogue. C'est pourquoi, dès demain matin, nous sommes prêts à œuvrer avec le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby, pour apporter avec tous autour de la table la valeur ajoutée de notre force politique à ce rendez-vous qui est un rendez-vous républicain au service du peuple tchadien. Saisissons les mains tendues et tendons-nous les mains.
Les propos de Succès Masra recueillis, N'Djamena par Nadia Ben Mahfoud. C'est à vous, André Almeida.